Micro-ondes, l'émission en direct de Radio Royan-Vercors. À écouter chaque jeudi de midi à 13h et en rediffusion le vendredi soir à 19h. Invité au micro, actu local, agenda culturel et coup de cœur de la rédaction. Micro-ondes, promis, c'est pas du réchauffé.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Royan-Vercors 93 FM. Nous sommes donc dans cette émission en direct, micro-ondes, pour parler donc avec une invitée aujourd'hui qui s'appelle Angélique Lopez. Bonjour Angélique.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un monde que l'on voit peu, qui se cache derrière les paysages emblématiques du Vercors. On connaît bien le Grand Vémont, Combe-Laval ou encore le Col de la Bataille. Mais on connaît moins le Grand Rhinodolphe, le Triton alpestre, le Murin de Dombenton, la Populage des Marais ou encore l'Azuré du Serpollet. Ces espèces, eh bien, elles sont très peu visibles, on en parle peu, mais pourtant elles sont bien présentes dans le Royan et dans le Vercors. Elles nous racontent une autre histoire du territoire, celle d'une biodiversité discrète, mais indispensable. Et c'est celle-ci que l'Atlas de la biodiversité du Vercors met en lumière avec une démarche collective qui vise à mieux connaître, à mieux recenser et valoriser la richesse du vivant sur le territoire du Royan et du Vercors. C'est une initiative qui est coordonnée par le Parc naturel régional du Vercors et donc c'est bien pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui donc Angélique puisque tu es volontaire en service civique au Parc naturel régional du Vercors.
Tout à fait.
Alors, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter à notre micro, présenter c'est quoi ce service civique au Parc naturel régional du Vercors ?
Ce service civique, c'est en fait le rôle d'une ambassadrice de la biodiversité du Vercors, donc pour l'ABC, qui signifie Atlas de la biodiversité communale. Donc le but, c'est de faire un inventaire, donc comme tu l'as très bien dit juste avant.
Et donc, ça fait combien de temps que tu as commencé ce service civique ?
J'ai commencé début avril et ce service civique va durer 8 mois.
Et donc ça, nous, on en avait déjà entendu parler, donc des services civiques au parc. J'ai l'impression que vous êtes plusieurs. Donc toi, tu es vraiment axée sur le secteur du Royan.
C'est ça.
Mais il y a d'autres secteurs qui sont étudiés en même temps.
Tout à fait. Donc moi, je suis sur le secteur Royan. Donc il y a une dizaine de communes du secteur du Royan qui participent à l'ABC. Et il y a également d'autres secteurs comme les Quatre Montagnes, le Trièves et le Diois. Donc nous sommes 4 services civiques pour cette ABC cette année.
Et alors, comment est-ce qu'on arrive à faire un service civique au parc naturel ? Est-ce que, par exemple, tu as eu un parcours scolaire qui t'a amené à faire des études sur la biodiversité ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours ?
Oui, bien sûr. J'ai fait une licence générale sciences de la vie, où j'ai étudié l'écologie et l'environnement. Et ensuite, j'ai fait un master agroécologie, donc parcours service écosystémique pour la production agricole, puisque aussi l'agronomie m'intéressait. Et j'ai un attrait pour le naturalisme, pour le vivant en général, et tout particulièrement pour la botanique.
Ok, super. Et c'est vrai que notamment dans les parcs naturels, il y a une très grande proximité entre l'agriculture et la biodiversité sauvage. Et il y a de plus en plus de rencontres aussi entre ces deux mondes. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous présenter, donc pour les auditeurs et les auditrices de Radio Royan, qu'est-ce que c'est que cet ABC, cet Atlas de la biodiversité communale du Vercors ?
Oui, bien sûr. C'est un ABC, c'est une démarche qui est scientifique et citoyenne. Elle est participative. Elle permet aux communes de mieux comprendre, de mieux préserver et de valoriser leur patrimoine naturel. Donc pour faire un historique, dans le Vercors, c'est le deuxième ABC. Il a été lancé en 2024 et il va durer 3 ans, donc il se termine cette année. Et il y a 25 communes. Donc dans le secteur du Royan, il y a Auberive-en-Royan qui y participe, mais aussi Saint-Thomas-en-Royan, Bouvante, Échevis, La Motte-Fanjas, Saint-André-en-Royan, Sainte-Eulalie-en-Royan. Il y a également Saint-Just-Clé, Saint-Romand et pour finir Romans-sur-Isère. Donc ça c'est seulement dans le secteur du Royan. Et il y a eu également un ABC 1 qui comportait 38 communes et qui a été terminé. Donc, et puis un ABC 2 a commencé à sa suite.
Et est-ce que cette démarche donc qui est assez participative, tu disais qu'il y a les communes qui sont impliquées plus les habitants, est-ce que c'est propre au parc du Vercors ou est-ce que ça se fait dans d'autres parcs ? Je ne sais pas si tu sais.
Ça se fait dans d'autres parcs, oui, ah ouais. Tout à fait. C'est une démarche, c'est un projet en fait qui est porté par les parcs et c'est un accompagnement des communes dans la réalisation de ce projet. Et donc voilà, je pourrais vous expliquer plus en détail, mais oui, c'est porté par d'autres structures, oui.
Et donc concrètement, quel est le rôle du parc dans cette dynamique participative ?
Eh bien, comme je disais, c'est de porter ce projet-là, de pouvoir en fait répertorier les communes qui ont envie de faire cet atlas et de les accompagner dans la construction du dossier. Et après, sur le terrain, ça va être les ambassadeurs et les ambassadrices qui vont être donc les services civiques, qui vont aider, accompagner. Mais voilà, la dynamique, elle est propre aussi aux communes. C'est vraiment un travail commun, en fait.
Du coup, vous faites du lien, vous apportez aussi des outils, j'imagine, de concertation, d'identification. Est-ce que vous formez aussi les habitants, par exemple?
Oui, ça peut. Ça dépend des souhaits des communes aussi, de ce qui a déjà été fait, parce que moi, j'arrive sur la troisième année. Et donc, on peut très bien imaginer vouloir faire une sortie zone humide parce qu'il n'y en a pas eu, ou bien pollinisateur. Et là, on discute, on échange et on trouve des choses à faire sympas dehors.
Et donc là, tu disais que c'était la troisième année, qu'il y a déjà eu un ABC 1 qui a été lancé. Ça donne quoi à la fin d'un cycle d'ABC? Est-ce qu'il y a un rendu? Est-ce que on peut voir ce qui a déjà été produit dans le passé?
Oui, tout à fait. En fait, le but aussi de l'ABC, je reviendrai dessus plus en détail, mais un des rendus, c'est notamment la création de cartes qui permettent de mettre en évidence des habitats à enjeux et des espèces, donc propres à la commune. Et également une production de livret qui s'appelle un livret Atlas qui contient ces cartes et donc encore une fois par commune et qui résume les résultats de ces trois années et qui surtout propose des actions concrètes pour préserver la biodiversité locale, donc ce qu'on appelle un plan d'action qui est sur la dernière page du livret.
Et c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de découvrir celui de Pont-en-Royans en préparant cette interview et c'est assez complet, hein. Il y a pas mal de pages, il y a des images, c'est très accessible comme document. Et donc ça c'est rédigé par qui? C'est conjoint avec les habitants ou c'est vraiment par exemple toi qui t'en charge?
Alors c'est un travail à plusieurs mains. J'ai une collègue qui est en stage sur ces thématiques-là qui va faire un travail super sur la cartographie des habitats et des espèces. Et puis après il y a aussi le recensement, donc j'en reparlerai plus tard, de tout l'inventaire qu'il y a eu et donc la mise en évidence de la présence des espèces. Ça va apparaître aussi dans ce livret-là. Et puis les habitants et habitantes peuvent participer, et les communes bien sûr, au plan d'action, donc qui est un accord commun, on va dire, des actions à mettre en place pour favoriser cette biodiversité. Et donc tous on peut participer à ce beau projet.
Et donc, si on devait donner un peu des exemples d'actions qui auraient pu être décidées dans d'autres ABC du coin, ça serait quoi pour essayer de donner une image à nos auditeurs, à nos auditrices? Est-ce que c'est, par exemple, faucher plus tardivement des jardins, des petites parcelles? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme exemple?
Oui, tout à fait. Ça peut être ça, ou bien j'imagine, peut-être on peut imaginer une histoire où historiquement il y avait des chauves-souris dans le village, et en fait on voit que ces populations-là un petit peu régressent, et donc on a envie de revoir ces populations comme dans le temps, et donc on réfléchit comment faire. Donc on va travailler sur l'éclairage par exemple, on va travailler sur les gîtes pour ces chauves-souris, on va les favoriser, on va leur donner le gîte et le couvert pour espérer les voir revenir. Donc ça peut être propre à chaque commune aussi.
Et ben justement, on va parler juste après des chauves-souris, parce que l'ABC du Vercors, il y a plusieurs thématiques dans cet ABC. Les chauves-souris en font partie. Quelles sont les autres grandes thématiques, les grands axes de cet ABC?
Bien, il y en a cinq. Donc, comme tu disais, les chauves-souris, il y a également les pollinisateurs, les arbres remarquables et les haies. Il y a les zones humides et la flore.
Ouais, donc c'est assez vaste finalement. Et comment est-ce que ces grandes thématiques ont été choisies ou
c'est
déterminées?
Plutôt, je pense qu'il a fallu axer, parce que biodiversité c'est un monde vaste et magnifique, et puis il a fallu faire des choix. Et je pense que c'était les thématiques qui étaient à la fois plus parlantes et peut-être prioritaires, parce que je pense que les zones humides, ce sont des milieux qui sont fragiles et en voie de régression aussi, et que les chauves-souris sont des espèces protégées, et l'importance des pollinisateurs. Voilà, tout le vivant est important, mais je pense que ces thématiques-là ont du sens.
Et donc là, nous, on va parler spécifiquement du Royan. On le dira quand on parle un peu de plus loin, du Vercors, du Trièves. Mais c'est vrai que on habite dans un territoire où il y a plein de milieux qui sont très différents les uns des autres, d'une combe à l'autre, entre le Royan et le Vercors. Il y a plein de nuances, plein de spécificités. Toi, c'est aussi pour ça que tu as choisi ce territoire? C'est, oui, ou c'est un aussi. Hasard.
Bah c'est, j'avais déjà un petit pied dans le Vercors, voilà, par mon passé, j'avais passé du temps ici et c'est vrai que le Vercors c'est magnifique, c'est très, enfin c'est préservé, c'est, il y a plein de choses à faire et à voir et oui, c'est un petit territoire de cœur.
Et bon, on le partage ce territoire. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur l'ABC ou est-ce qu'on peut passer peut-être aux thématiques?
Oui, peut-être parler un petit peu des enjeux de cet ABC, comment y participer, voilà. Donc pour comprendre un petit peu concrètement qu'est-ce qu'un atlas de la biodiversité communale, en fait, il faut voir ça comme deux, il y a deux parties. Une partie où on va créer de la donnée, on va faire des inventaires naturalistes. Et quand je dis on, je parle d'une part d'experts et d'expertes qui vont venir recenser les espèces et les habitats qui font partie donc de ces cinq thématiques. Et également, ça peut être réalisé par des habitants et habitantes. C'est tout là la notion de participative de cet atlas. Par votre connaissance, par vos observations, vous pouvez en fait participer à cet atlas. Et le but étant de fournir aux élus et aussi à vous en fait des données fiables pour connaître la biodiversité de votre commune, pour l'intégrer et la préserver et l'intégrer notamment dans des projets d'aménagement du territoire. Donc voilà, c'est assez important. Et également, il y a un volet sensibilisation. Et donc là, quand je dis on, c'est ensemble aussi avec les communes, mais on va participer à organiser des événements qui sont des conférences, des sorties terrain, des ateliers, des soirées, etc. Tout ce qui peut nous plaire, qui vont avoir pour but de sensibiliser et de motiver, de mobiliser les habitants et habitantes autour de ces enjeux-là. Donc c'est une occasion aussi pour vous de découvrir la richesse écologique du Vercors, de votre commune ou pas, aux alentours hein, bien sûr, et d'agir pour sa protection.
Et alors est-ce qu'on a besoin d'être déjà un peu familiarisé avec la biodiversité? Est-ce qu'il y a besoin de savoir déjà reconnaître par exemple quelques plantes, quelques insectes, ou alors est-ce que c'est vraiment ouvert aux débutants, grands débutants?
C'est ouvert à tous, vraiment. Okay. C'est qu'on soit expert, experte, qu'on soit débutant, curieux, c'est au contraire, c'est là où les questions fusent et c'est très, les échanges sont aussi très intéressants. Voilà, ça peut être une occasion, on se retrouve autour de la thématique des insectes pollinisateurs et c'est l'occasion d'en apprendre plus. Des fois, on ne sait pas trop par où commencer, tellement c'est vaste. Eh bien, on peut trouver des outils, des petits conseils pour commencer et pour se familiariser avec ce monde-là.
Et puis, c'est aussi l'occasion, du coup, de rencontrer d'autres personnes qui partagent donc cette curiosité ou ce goût pour les observations naturalistes. Et c'est vrai que c'est chouette aussi de pouvoir rencontrer ses voisins, même les habitants d'autres quartiers ou d'autres villages autour d'une observation de terrain. Du coup, c'est aussi peut-être ouvert aux plus jeunes. Est-ce que c'est des choses qu'on peut venir faire en famille?
Oui, tout à fait. Après, ça dépend du souhait de chacun, chacune. Voilà, peut-être que des fois, il peut y avoir des animations qui se font le mercredi ou bien le soir, justement, ou le week-end, pour que ce soit accessible à tous. Mais des fois, c'est en pleine journée, en semaine. Voilà, ça dépend de nos disponibilités, de nos envies, bien sûr. Mais on prend en compte quand on vise un public. Voilà, par exemple, je pense à la construction de nichoirs pour les chauves-souris. On va essayer d'inviter tout le monde. Donc on le fera ça en soirée, un vendredi soir par exemple, ou un mercredi après-midi, pour se dire tout le monde peut venir participer.
Ouais, c'est super chouette. Et alors, donc c'est un peu ce qu'on pourrait appeler la science participative, le fait que chacun, chacune peut, avec une observation fiable évidemment, participer à la création de données. Et donc ça, c'est essentiel pour protéger et mieux connaître les environnements dans lesquels on vit. Et justement, s'il y a des auditeurs, des auditrices qui souhaitent, qui sont déjà convaincus au bout de ces quelques minutes d'interview, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour peut-être participer ou trouver un ABC s'il n'y en a pas dans leur village?
Oui, alors comment y participer? Vous pouvez, comme je disais, rejoindre des animations organisées près de chez vous, donc ces sorties, ces conférences, ces ateliers. Vous pouvez également participer à l'inventaire, donc participatif, en inscrivant des données sur l'Observatoire de la biodiversité du Vercors. Donc,
Cet observatoire?
C'est un observatoire que vous pouvez retrouver sur le site du parc. Donc, je vous invite à taper PNR Vercors ABC. Vous allez tomber sur la page Atlas sur le site du PNR du Vercors. Et donc, il y a cet observatoire de la biodiversité du Vercors. Donc, tout y est un petit peu plus décrit sur la page. Mais en gros, c'est un observatoire des chauves-souris, arbres remarquables et zones humides. Donc, c'est pas les cinq thématiques de l'ABC. C'est un outil qui permet de rassembler trois d'entre elles et de les recenser, donc pour pouvoir en fait se rendre compte de la trame de réseaux humides qu'on a dans le Vercors, ou bien de chauves-souris, ou bien d'arbres remarquables qui sont des habitats propices notamment aux chauves-souris. Mais pas que. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de participer comme ça à cet inventaire en rentrant les données, voilà. Et ensuite, vous pouvez participer à l'élaboration du plan d'action pour la biodiversité de votre commune. Donc j'en parlais tout à l'heure. C'est un plan d'action contenant des actions à mettre en place en lien avec la biodiversité. Donc comme on disait tout à l'heure, comment favoriser les chauves-souris, tout ça. Vous avez aussi votre mot à dire. Et si vous avez des idées, c'est le moment de les partager parce que je suis sûre qu'elles sont très 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 chouettes et on en discute ensemble et on trouve des solutions concrètes ensuite.
Super, donc tout ça évidemment on retrouve toutes les infos et tout l'agenda des différentes ateliers ou des différentes rencontres sur le site du parc, un site qui est d'ailleurs pas mal fourni en termes d'informations et c'est très accessible. Et alors, depuis tout à l'heure, on a entendu quelques fois le mot chauve-souris.
Tout à fait.
Et en préparant cette interview, moi j'avais très envie qu'on en parle parce qu'on en parle peu des chauves-souris. Et comme c'est une des thématiques de cet atlas de la biodiversité communale, je t'ai proposé qu'on commence par ça.
Oui.
Qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on sait sur les chauves-souris du Royan et du Vercors ?
Alors, on sait pas mal de choses, mais pour commencer, je dirais que les chauves-souris sont des animaux insectivores qui vont jouer un rôle très important dans le cycle naturel. Elles vont jouer un rôle de régulation des insectes, notamment des moustiques et des chenilles, des papillons. Donc, leur présence est quand même indispensable pour réguler ces populations qui peuvent être très populeuses pour le coup. Elles peuvent vivre très proche de nous, donc elles peuvent s'installer dans des endroits inoccupés de nos maisons, comme des caves, comme des garages, derrière nos volets, dans des boîtes aux lettres abandonnées, au frais. Voilà, on peut imaginer toutes sortes de choses. Il faut bien penser à elles quand on fait des travaux, parce que leur présence, ça peut perturber leur présence. Et il faut savoir qu'en France, toutes les espèces de chauves-souris et leurs habitats de vie sont protégés par la loi. Donc il faut bien veiller à faire attention à ces êtres vivants quand ils sont chez nous, il faut les protéger.
Et d'ailleurs, j'en avais parlé une fois avec un naturaliste qui disait c'est pas antinomique, ça veut pas dire qu'on peut pas faire de travaux, c'est juste qu'on va faire les travaux à un autre moment de la saison, en tout cas en prenant en compte cette présence quoi.
Tout à fait, j'allais y venir, c'est une très belle remarque parce que la chauve-souris a un cycle très particulier et elle va notamment avoir besoin de gîtes, donc j'y reviendrai, et ces gîtes ils vont dépendre en fait de leur stade au niveau du de leur cycle de vie. Il va y avoir par exemple des gîtes de reproduction qui vont être différents des gîtes d'hivernage. Elles vont également migrer. Donc en fait, ces chauves-souris, elles sont très complexes. Elles ont un mode de vie assez complexe. Et donc, elles ont besoin de ces espaces-là. Et voilà, comme tu le disais très bien, il faut décaler les travaux pour éviter de les déranger au moment de la mise bas, par exemple. Voilà, toutes ces choses-là, il faut y penser. Et si jamais vous avez des questions ou vous voulez faire des travaux et vous ne savez pas comment vous y prendre, c'est possible de se rapprocher des personnes du parc ou bien de la LPO. Vous avez peut-être dû voir passer la fiche avis de recherche des chauves-souris où il y a mon contact dessus pour justement en fait je recueille les appels et les mails des personnes qui me demandent comment me posent des questions ou bien veulent recenser ces colonies-là. C'est tout à fait possible de le faire pour trouver un moyen de cohabiter ensemble pour que vous puissiez faire vos travaux mais sans déranger ces colonies. Voilà.
Ok, super. Et on relayera d'ailleurs la petite affichette en bas de l'article qu'on va faire sur notre site internet pour retransmettre donc cette interview. Et quand on parle des chauves-souris, moi j'ai l'impression que c'est un grand mot qui définit tout un tas d'espèces. C'est vrai qu'on les voit peu parce qu'elles passent super vite, généralement entre chiens et loups ou en pleine nuit. Et en fait, il y a pas mal d'espèces qui se retrouvent dans ces chauves-souris. Est-ce que tu as une idée du nombre d'espèces qu'on peut retrouver dans le Royan Vercors ? Est-ce que c'est vraiment propice à leur habitat ?
Alors je sais qu'il y a 35 espèces de chauves-souris en France. Dans le Vercors, j'ai pas le chiffre exact, mais...
Moi, je l'ai trouvé.
Ah, super.
Et on en a 29 sur 35. Donc, c'est quand même assez dingue de voir que... Mais en fait, on a aussi une multitude de milieux. Mm. Et ça nous permet aussi d'avoir une multitude d'espèces. Et donc, d'apporter un peu de complexité là-dedans. Et justement, moi, je voulais faire une petite aparté avec un extrait sonore que je voulais diffuser sur les chauves-souris. Parce que comme on le disait, on les voit rarement de près, on les voit tout le temps nous survoler. Et en fait, les naturalistes, ils ont développé un petit outil qui permet d'écouter les chauves-souris parce qu'elles font des petits ultrasons. Donc on en entend parfois des petits bruits très aigus. Ça, c'est les bruits de la pipistrelle souvent qu'on peut entendre. Et moi, je voulais écouter donc un son d'écholocation parce qu'elles font ces petits ultrasons pour... se repérer dans l'espace. Et donc Gaëlle, qui a la technique, va nous passer un son d'écholocation. Là, on entend plusieurs cris. On entend qu'il y a deux notes. C'est assez marrant, on croirait que c'est des sabres laser. Évidemment, on n'entend pas ça à l'oreille nue quand on se balade en forêt ou dans les villages. Mais c'est ce qu'elles, elles perçoivent. Donc là, c'est des sons qui ont été captés avec ces petits appareils et qui sont ralentis pour que nous, nos oreilles humaines, puissent l'entendre. Et c'est Marc Namblard, qui est un audio-naturaliste, qui a enregistré ça. Et donc là, on a entendu deux notes et c'est deux des espèces de chauves-souris différentes parce que chaque espèce de chauve-souris a sa signature sonore. Et donc je voulais juste passer un deuxième son du murin de Daubenton. Donc c'est une espèce de chauve-souris qu'on a dans le Royan Vercors et on va l'écouter là encore. Et donc là c'est un murin de Daubenton qui est dehors, qui est en forêt et qui chasse. Et on voit que tous ces petits sons, ouais. Tous ces petits sons, en fait, c'est les retours d'écho aussi qu'il a autour des arbres. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'activité. Et donc, ce murin de Daubenton, eh ben, il est aussi lié au milieu aquatique. On l'observe souvent au ras de l'eau, où il est en train de chasser, donc comme tu le disais, des insectes. Et donc souvent au milieu des surfaces d'eau calme, et donc il est assez rare donc de les voir de très près. Mais ça montre aussi l'étroite relation entre ces animaux et les milieux fragiles aussi qu'ils ont besoin pour chasser. Et tu disais donc ils mangent des insectes, et donc on a souvent des problèmes de pirates et de moustiques dans le royaume. Et donc c'est vraiment quelque chose, faut apprendre à cohabiter avec eux quoi, et même presque les inviter.
Oui. Ben c'est vrai que ce sont des alliés pour réussir à réguler ces populations-là qui sont, comme on disait tout à l'heure, qui sont populeuses. Et une des possibilités de les accueillir chez nous, c'est peut-être mettre en place des nichoirs. C'est une des solutions pour celles et ceux qui ont envie de voir des petites visites chez nous, des petites colocataires. C'est possible de mettre en place des nichoirs. Il faut savoir que par contre, ça ne convient pas à toutes les espèces et il faut être prudent et prudente car tous les modèles et tous les matériaux ne sont pas adaptés aux chauves-souris. Donc j'entends la profondeur du nichoir, la taille, l'exposition, des choses comme ça. Et le matériel, il faut qu'il soit neutre de tout produit chimique et le bois ne doit pas être écorcheur. Voilà. Il y a plein de petites choses à prendre en compte. Si vous avez envie, vous êtes curieux, curieuse et que vous voulez faire des nichoirs, et je vous invite à le faire, ça peut être très chouette lors d'une soirée avec des voisins, avec les enfants, pouvoir construire ce nichoir à plusieurs mains. Je peux vous transmettre, ou on peut vous transmettre, des plans et des conseils pour pouvoir mettre en place ce genre de nichoir chez soi.
Ouais, c'est super chouette et je crois qu'il y a un moment donné aussi de l'année où il faut les installer pour essayer de plus les inviter quand elles sont en quête de gîte. Et c'est vrai que une aussi des raisons qui fait que ces populations elles sont fragiles et que ça reste des espèces qui sont protégées, c'est aussi que chaque chauve-souris, pour la plupart, elle donne naissance qu'à un seul petit chaque année.
Tout à fait.
Ce qui fait que voilà, il y a une très faible natalité et donc il faut vraiment les protéger et en prendre soin quoi.
Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce que tu disais, pour les anecdotes sur les chauves-souris, ce sont les seuls mammifères volants, déjà. Et il y a des colonies de femelles, donc comme tu le disais, qui vont, en fait, c'est des colonies comportant seulement des femelles qui vont mettre bas entre mai et juillet, donc on est dans la saison de mise bas. Et elles ont des gîtes comme ça, où elles se retrouvent en colonies de femelles. Donc il faut pas mal de place pour accueillir toutes ces femelles avec leurs petits. Et c'est donc le petit s'accroche à la mère et quand la mère met bas, elle va rester pendant une nuit ou deux avec son petit. Donc elle ne va pas sortir se nourrir et elles restent ensemble aussi. Voilà, il y a des, on peut dire, des amitiés entre les chauves-souris et c'est assez mignon en fait. Donc comme je disais tout à l'heure aussi, et tu le disais, les menaces qui pèsent sur ces espèces, ça va être par exemple le dérangement sur les gîtes, la disparition des gîtes, la diminution des ressources en nourriture, donc on entend les insectes aussi, qui sont aussi étroitement liés aux zones humides, et donc il y a aussi la destruction directe et la prédation. Et qu'est-ce que j'entends par gîte ? Ça peut être des cavernes, des trous dans les arbres morts, qui peuvent accueillir des populations. Et il y a également des bâtis qui vont dépendre en fait du besoin et donc du moment du cycle de vie. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des gîtes de reproduction qui sont différents des gîtes d'hivernage, qui sont différents d'autres gîtes. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et si vous voulez un petit peu plus vous renseigner sur les chauves-souris, je vous invite à regarder le film de Tanguy Stockel, Une vie de grand Rhinolof. Donc il est disponible sur YouTube. Voilà, c'est un super film qui raconte un petit peu. Voilà, c'est une jolie première approche pour apprendre à connaître ces espèces qu'on connaît très peu finalement.
Ah bah super, bonne référence. On va le remettre aussi dans les références de cette interview sur notre site internet. Une vie de grand Rhinolof.
Rhinolof.
Voilà, voilà, on les connaît très peu, ces espèces. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a un groupe Chiro, parce que c'est les chiroptères, les chauves-souris, à la LPO, notamment de la Drôme. Et je sais qu'ils viennent de temps en temps, notamment au mois de septembre, pour faire des captures. Et c'est des moments de sensibilisation aussi, où c'est des experts et des expertes qui viennent, qui sont agrémentés pour capturer les chauves-souris, les baguer ou les identifier. Et c'est souvent des moments où ils les prennent dans leur filet, on peut les regarder de près. Et ça permet aussi de déconstruire un peu la fausse image que les chauves-souris seraient un peu méchantes ou elles pourraient transmettre des maladies. Donc évidemment, c'est pas vrai. Enfin, bien sûr, elles peuvent en transmettre, mais il y a quasiment peu de chances qu'elles nous mordent.
Oui.
C'est vraiment des sortes d'idées reçues.
Oui, oui.
Qu'on a tous et toutes. Et super, on mettra ce film en lien sur notre site internet. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous raconter sur les chauves-souris?
Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les anecdotes et il y aurait mille choses encore à dire, mais voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour.
Et merci beaucoup. On va se faire une petite pause dans cette interview. On va écouter une musique qui va introduire notre deuxième partie d'interview puisqu'on va parler de fleurs et de pollinisateurs. Et moi, j'ai choisi de vous partager un morceau d'un artiste qui s'appelle Mort Garson. Il a écrit un album qui s'appelle Mother Earth Plantasia. C'est un album de musique électronique qui a été publié pour la première fois en 1976. Et donc, fait assez étonnant, la musique est conçue pour être écoutée par des plantes. Et à l'époque, donc, il était très difficile de se procurer l'album, car au moment de sa parution, il était réservé aux personnes qui avaient acheté une plante d'intérieur dans un magasin appelé Mother Earth à Los Angeles. Et donc la plante était livrée avec son disque. Dans son album, il y a également d'autres chansons comme Symphony for a Spider Plant, Rhapsody in Green ou Concerto pour un philodendro. Et donc là, je vous propose d'écouter Plantasia. Mettez votre radio à côté de vos plantes vertes, c'est le bon moment. Thank you. Voilà, c'était Plantasia de Mort Garson, un morceau qui est tiré d'un album qui s'appelle Mother Earth Plantasia, un album de musique électronique composé pour être écouté par des plantes. Et ça va nous faire notre transition pour cette deuxième partie d'interview. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Royan Vercors 93 FM. Je suis en compagnie d'Angélique Lopez, qui est volontaire en service civique au parc du Vercors, en charge plus précisément de l'Atlas de la biodiversité communale sur le secteur du Royan. Et donc, juste avant d'écouter cette musique, on parlait des chauves-souris, qui est un des axes de cette ABC, donc Atlas de la biodiversité communale. Et dans les autres axes, eh bien, il y a les pollinisateurs et la flore. Et alors, qu'est-ce qu'on a à raconter autour de ces deux autres thématiques qui sont sur ton secteur d'activité ?
Je dirais, en termes de généralité, peut-être faire un petit rappel sur ce que sont les pollinisateurs, ouais, et en quoi ils sont essentiels. Il faut savoir qu'en France, on compte 20 à 25 000 espèces qui vont se nourrir dans les fleurs. Ces espèces, on les dit floricoles. Mais tous les insectes floricoles ne sont pas pollinisateurs. Ils le sont quand ils permettent aux plantes de se reproduire. Donc, mmh, avec leur structure, leur poil, leur mode de vie, ils vont aller de fleur en fleur, permettre la pollinisation. Mais tous n'en sont pas capables. Et tous les pollinisateurs n'ont pas la même efficacité de pollinisation. Voilà, encore une fois, dépendamment de leur structure, de leur la présence de poils qui favorise surtout la pollinisation. Voilà, ils ont pas la même efficacité. Les principaux ordres d'insectes pollinisateurs sont les hyménoptères, donc c'est l'ordre des abeilles, des guêpes, des fourmis. Donc quand je dis abeille, on pense bien sûr à l'abeille domestique Apis mellifera, mais ça n'est pas la seule, c'est qu'une espèce parmi tant d'autres, comme des andrènes, des alictes, des bourdons, des anthrophores, etc. Donc voilà, c'est une grande diversité d'espèces d'abeilles sauvages. Également, on a l'ordre des diptères, où il y a de très nombreuses familles de mouches, donc c'est la famille des mouches, des syrphes, des mucides et des moustiques. Donc diptères, ptère ça veut dire aile, di ça veut dire deux, donc ce sont les insectes qui ont deux ailes. Ensuite, nous avons les lépidoptères, qui sont donc les papillons de jour et les papillons de nuit. Donc, à l'instant, je disais que tous n'avaient pas la même efficacité de pollinisation. Pour le fun fact, les papillons de nuit sembleraient mieux polliniser que les papillons de jour, parce qu'ils sont tout poilus. Ils sont très très poilus et très gros, et donc ils vont avoir une efficacité plus importante. Mais encore une fois, ça dépend aussi de leur mode de vie et de quelles fleurs ils visitent. Mais voilà, c'est assez intéressant. Et pour finir, on a l'ordre des coléoptères, qui sont donc les scarabées, les longicornes, les coccinelles, etc. Et qui comptent, c'est un ordre qui compte plus de 400 000 espèces. Donc c'est les coléoptères, c'est très très grand, un très bel ordre, et dont une partie de ces êtres vivants sont pollinisateurs. Donc très important.
Mais ils ne le sont pas tous.
Et ils ne le sont pas tous, exactement. D'accord. Et justement, de nombreux ordres d'insectes se nourrissent également sur les plantes, donc ce soit la fleur même ou la partie végétative, et ils peuvent participer un petit peu à leur dépens au transport des grains de pollen. Donc je pense aux punaises, aux chrysoptes, aux perce-oreilles, qui ne rentrent pas dans l'image qu'on se fait de l'insecte pollinisateur type. On pense tout de suite à l'abeille avec son corps poilu. Eh bien, ils peuvent quand même participer moins efficacement certes, mais à la pollinisation. Donc ce sont tout de même des individus très importants.
Et donc quand on entend beaucoup aujourd'hui qu'il y a une sorte de baisse de biodiversité dans les insectes pollinisateurs, que les insectes disparaissent, là aussi c'est une question de milieux qui se raréfient, qui sont moins riches, c'est ça ?
Tout à fait. Un être vivant, pour rester quelque part, il a besoin du gîte et du couvert. Et donc la raréfaction de la ressource, notamment végétale, pour les insectes pose problème. Et également, certains insectes ont des cycles de vie particuliers qui demandent un habitat propice, à la fois complexe. Ce sont des individus qui souffrent en fait de la disparition de ces habitats, la raréfaction de ces habitats.
Et ça demande aussi une diversité de fleurs, parce que c'est vrai que quand on voit dans certaines régions, heureusement pas dans le Royan, les grandes étendues de monoculture, où on a que des fleurs de colza, effectivement ça va peut-être moins intéresser une diversité en tout cas d'insectes.
Tout à fait, et je pense que le plus important aussi, c'est que ce sont des, ça prend beaucoup de place. Certes, c'est en quantité quand ça fleurit et quand il y a du pollen, mais c'est sur un laps de temps limité. Et le reste du temps, ces individus insectes se retrouvent en diète, ils n'ont pas de quoi se nourrir, puisque y a une phénologie qui n'est plus étalée comme dans la nature. Phénologie, j'entends la période de la vie des plantes, quand elles fleurissent, quand elles se reproduisent, quand elles se mettent en graines, eh bien on a moins de fleurs et donc moins de moments où elles vont être potentiellement de la ressource.
Et oui.
En pollen, voilà.
Et oui, oui, et c'est vrai que même au début de l'automne, c'est encore important d'avoir quelques fleurs pour pouvoir nourrir et permettre de faire des petites réserves, notamment pour les abeilles et tous les autres pour l'hiver. Concernant le royan, du coup, les pollinisateurs sont étudiés dans l'ABC. Comment ça se passe? Est-ce que du coup, il faut apprendre à reconnaître certains insectes? Et du coup, quels sont les plans d'action qu'on peut mettre en place aussi pour les préserver?
Oui, c'est vrai que les insectes en général, les quatre ordres que j'ai cités, il y a des spécialistes, des experts et expertes de chaque ordre et parfois de chaque genre. Donc c'est vraiment une complexité de pouvoir identifier, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être expert et experte. Il y a des outils qui permettent aussi parfois d'en apprendre plus et de savoir les identifier. Je pense à l'application Ops Identify, qui est un petit peu comme un PlanteNet des animaux et surtout des insectes. Ça peut aider à donner un genre, à pouvoir creuser ensuite les recherches jusqu'à l'espèce. Mais encore une fois, si on sait déjà un petit peu qu'on regarde un diptère, un coléoptère, c'est quelque chose qui permet aussi d'aider à la connaissance. Et comment les plans d'action, comment participer? Se renseigner sur, par exemple, quelle espèce il y a autour de nous, ça permet de savoir quels habitats ils ont besoin. Et donc ensuite, mettre en place, je sais pas, si on prend un cas concret dans le Royan, on a la Rosalie des Alpes, qui est un longicorne bleu magnifique et protégé et rare, qui vit, pourquoi il est rare? Parce qu'en fait, il a un mode de vie particulier, il a besoin de bois mort, et notamment du hêtre mort. Donc, il faut laisser la forêt en libre évolution jusqu'à la hêtrée, pour pouvoir avoir l'habitat propice. Et par exemple, il se nourrit du bois mort quand il est en stade de larve, et ensuite, une fois qu'il est à l'état adulte, donc comme on le voit bleu et magnifique avec ses longues antennes, eh bien, il va se nourrir sur les ombellifères. Donc c'est par exemple les carottes sauvages. Donc il y a beaucoup de spécificités de s'il n'y a plus de hêtre, la Rosalie des Alpes peut disparaître. S'il n'y a pas assez d'ombellifères, elle peut disparaître. S'il y a un coup de chaud, un coup de froid, que sais-je. Et ça peut impacter en fait l'espèce. Donc se renseigner sur, on sait qu'il y a de la Rosalie des Alpes, on sait qu'elle a besoin de tel habitat, et bien ensuite on agit concrètement. On va planter peut-être des carottes sauvages ou d'autres ombellifères. Enfin voilà, j'imagine un petit peu quelque chose comme ça.
Ah ouais, c'est hyper intéressant parce qu'on voit mieux, on arrive à relier une espèce à une autre et puis à un milieu surtout.
Oui.
Et du coup, ça nous renvoie tout le temps en partant d'un insecte en macro à quelque chose de plus grand, quoi. Ça me permet de faire des bascules d'échelle. Donc ça, c'est la Rosalie des Alpes. C'est vrai que c'est magnifique, oui. Ce petit insecte. Est-ce qu'il y a d'autres insectes un peu fragiles comme ça qu'on peut retrouver dans le coin, ou est-ce que c'est vraiment l'insecte phare?
L'insecte phare, moi je sais que c'est parce qu'elle est protégée et qu'elle est elle est prioritaire. Après tous les insectes,
oui.
Je trouve tous les papillons et toutes les abeilles, et voilà, mais en tout cas j'ai découvert cette année, pour partager un petit peu l'anecdote, les abeilles sauvages vraiment en détail, et en fait on se rend pas compte à quel point elles sont déjà très jolies, et en termes de forme, en termes de pièces dans la formation de leur corps, avec les couleurs, avec les poils, avec, c'est vraiment fascinant et relativement accessible finalement de pouvoir les observer. Et quand on forme un petit peu son œil, on arrive à les voir survoler des fleurs, et elles sont minuscules, elles vivent dans des, par exemple si vous avez un talus nu, un mur, un sol nu, vous regardez s'il y a des petits trous tout petits, et en fait on voit des abeilles, donc ce sont des abeilles sauvages qui vont dans ces trous là et qui ont leur colonie, leur larve dans la terre, et qui en fait vivent comme ça sous terre. On ne les voit pas, on ne sait pas qu'elles sont là, et en fait je trouve ça fascinant aussi comme monde.
Ouais, ça nous invite vraiment à ouvrir l'œil et à se rapprocher du sol et des fleurs, tout ça. Et si on devait dire quelques mots sur la flore? La flore qu'on peut retrouver ici ou dans le cadre de l'ABC du Royaume Vercors.
Ah ben, je pense à la tulipe qu'on retrouve dans le Vercors, qui est une espèce du coup aussi protégée, mais je pense aussi à toutes les orchidées, qui d'ailleurs en fleur en ce moment.
Ouais.
Je pense à toutes les orchidées qu'on peut retrouver. Donc pareil, hein, si on n'est pas expert de la flore, on peut tout de suite se renseigner, échanger avec des connaissances pour essayer d'apprendre. Où il y a des choses comme Plante Net, des outils comme ça qui permettent de donner une idée, puis après faire ses recherches. On a également des livres, des bouquins comme la Flora Gallica qui permettent via des clés de se plonger dans ce monde-là, ce lexique-là de la botanique et pouvoir identifier les espèces en lien avec ces pollinisateurs qui sont aussi en lien avec les chauves-souris qu'on abordait tout à l'heure, puisque ce sont tout ça forme un réseau trophique, donc c'est-à-dire des interactions entre les êtres vivants prédatés et prédateurs, et donc c'est très important. La flore locale est à la base de cette chaîne alimentaire. Et c'est important aussi de la protéger.
Bah ouais, c'est important d'en parler et de savoir la nommer. Et on peut aussi dire que dans toutes les médiathèques du coin, il y a des super petits livres d'identification qui sont tous plus ou moins poussés. Mais c'est aussi un bon premier pas pour d'aller emprunter un bouquin pour se plonger là-dedans. Évidemment, la chose la plus facile, c'est aussi de venir à un événement ou en tout cas à une balade, à une sorte de prospection ouverte au public pour discuter avec des gens, parce que c'est aussi ça que permet l'Atlas de la biodiversité communale, c'est de se rencontrer et de partager des moments de convivialité. Et du coup, est-ce que toi, t'as des événements à nous partager qui vont arriver là au niveau de l'Atlas de la biodiversité?
Oui. Si vous voulez vous renseigner sur les événements qui sont mis en œuvre dans le cadre de l'ABC, hein, que ce soit, alors c'est ouvert à tous et toutes, hein, qu'on soit ou non de la commune en question, et vous avez les événements, les affiches avec les invitations sur le site, encore une fois, du PNR Vercors. Et vous tapez agenda, et donc là vous pouvez chercher par commune les événements qui sont mis en place. Dernièrement, il y a eu quelques événements que j'ai pu faire, notamment des fêtes de la nature, des balades commentées sur les pollinisateurs, ou bien sur les zones humides, des sorties botaniques aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait assez bien. Et pourquoi pas vous lancer une dynamique ou un groupe dans votre commune, en fait, pour se retrouver. Encore une fois, voilà, c'est ce moment convivial qu'on cherche aussi autour de ces thématiques pour échanger, pour apprendre. Donc pourquoi pas faire un pique-nique et un verre de l'amitié lors d'une soirée observation de chauves-souris. Vous pouvez aussi vous mettre en place ce genre de dynamique si c'est quelque chose qui vous plairait. C'est tout à fait possible.
Et du coup, ça vaut le coup aussi de rappeler que les communes peuvent aussi vous contacter.
Tout à fait.
Parce qu'on sait qu'il y a des nouveaux élus qui ont pris place
tout à fait
depuis quelques mois. Et si votre commune ne fait pas encore partie du réseau de l'Atlas de la biodiversité communale, eh ben c'est encore possible, c'est ça?
Oui, tout à fait. En fait, il y a l'ABC2, donc comme je disais tout à l'heure, qui se termine fin de cette année. Et il y a un projet d'ABC3 qui est en train de se monter. Et donc, toutes les communes qui n'ont pas fait leur ABC et qui seraient motivées pour en faire un, eh bien c'est encore le moment de se rapprocher du parc afin de pouvoir se manifester, pouvoir monter ce dossier ensemble et participer à ce projet-là.
Et alors concrètement, s'il y a des élus qui sont un petit peu peureux parce que ils ont peur que ça leur prenne trop de temps, est-ce que tu as des petites infos à nous partager sur qu'est-ce que ça représente en termes d'implication pour un élu ?
Oui, je comprends que ça puisse être un frein. En fait, au sein de l'équipe municipale, on a ce qu'on appelle des référents ABC, des référentes ABC. Donc, c'est les personnes avec qui je travaille, parce que moi, je suis le lien entre le parc, les habitants-habitantes et les communes. Et donc, je vais être en lien avec ces référents-référentes. Ça va dépendre de l'envie. On a des dynamiques plus ou moins importantes. On a des personnes qui ont plus ou moins le temps. Mais ça va pas être une réunion tous les soirs, par exemple. Hein. On se retrouve quand il y a besoin de se retrouver, on fait le point sur les envies, et ensuite on met en place. Et quand je dis on, on accompagne aussi, c'est notre rôle en tant qu'ambassadeur et ambassadrice de la biodiversité, de communiquer sur les événements qu'on va mettre en place, mais c'est un travail conjoint avec les communes, bien sûr, de mettre en place ces événements-là et d'inviter habitants et habitantes à y participer. La charge de travail, elle est aussi répartie sur 3 ans. Puis souvent ça c'est actif pendant la belle période, et puis l'hiver il y a des sorties qui peuvent totalement être faites, mais c'est peut-être moins imposant, on va dire, en termes de temps.
Eh ben super, merci pour ces précisions. On va se diriger doucement vers la fin de cette interview. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, que ce soit sur une de ces thématiques dont on parlait ou bien sur l'ABC en général ? Ou est-ce qu'on a fait le tour ?
Bah moi je dirais que c'est une dynamique qui est assez intéressante. Au-delà de ça, voilà, c'est, on parle des thématiques de la biodiversité, c'est un travail sérieux sur ce, sur cette préservation, cette valorisation, mais aussi on peut y voir un côté social, un côté dynamique communal où on s'entraide, où on échange, où on se rencontre en fait. Parfois c'est l'occasion aussi qui fait voilà qu'on se rencontre autour de ces thématiques-là et plus ces affinités. Et je trouve ça sympa aussi de pouvoir avoir en tête ce côté-là de l'ABC qui permet aussi de faire du lien à la fois avec la biodiversité et les humains et à la fois entre les humains.
Ouais, carrément, c'est très chouette de terminer cette interview là-dessus sur des valeurs qui sont très simples et qui nous rassemblent tous et toutes. Et ben nous on va relayer donc sur notre site internet donc toutes les infos qui ont été dites dans cette interview. Radio Royan Vercors se charge également, dès qu'il y a un petit événement autour de nous qui est lié à l'ABC, évidemment, on va l'annoncer dans nos agendas culturels du coin. Et puis, bah merci beaucoup Angélique d'être
merci
venue
pour l'invitation.
À notre micro. Donc, je le rappelle, tu es volontaire en service civique au parc du Vercors. C'était ta première émission de radio.
Oui, tout à fait.
C'était super, merci beaucoup. Et donc, bah, on te souhaite bonne suite dans ce service civique. Et puis nous, on va continuer donc cette émission avec une petite musique juste avant de la clôturer. Et puis vous dire aussi qu'il y aura l'agenda qui sera juste à la suite de cette émission, l'agenda culturel, où vous retrouverez tous les rendez-vous de la fin de semaine et du week-end. Et le choix de musique que j'ai fait est évidemment lié à l'agenda culturel, puisque ce week-end, il y a pas mal de choses dans le coin, et notamment les 40 ans de la Halle, le centre d'art de Pont-en-Royan, avec vendredi et samedi toute une programmation culturelle en journée. Et il y a notre collègue Patrice qui fera une émission en live à 10h15 samedi matin sur la place de la Halle. Si vous êtes curieux, curieuse de voir ce que c'est qu'un live, eh bien allez-y. Et puis le lendemain, c'est moi qui ferai un live. Cette fois-ci, ce sera à 19h à la Chapelle en Vercors, en partenariat avec la Comédie de Valence. C'est un spectacle qui s'appelle OVNI, qui est un spectacle de radio-théâtre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir, ce sera à la Maison des Associations à la Chapelle en Vercors à 19h dimanche. Et donc nous, on va écouter Citron Citron. C'est un des concerts qui va avoir lieu donc à Pont-en-Royan samedi soir. C'est un duo Citron Citron, ce sont un frère et une sœur qui font de la musique ce qu'ils définissent comme organique, et c'est un opus qui parle de la vie quotidienne, de la mort et de l'amour dans une ambiance poétique et personnelle sur des rythmes groovy. Si ça vous intéresse, donc c'est le morceau qu'on va écouter, c'est Rafale, et donc ils seront en concert, c'est gratuit, samedi soir à Pont-en-Royan. Et puis moi, eh bien, je vous souhaite une très belle journée sur les ondes de Radio Royan Vercors, 93 FM. Merci à Gaëlle, à la technique, et merci Angélique d'être venue à notre micro.
Merci à toi.
Maintenant Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cet agenda de Radio Royan-Vercors. Pour la fin de cette semaine, un temps fort, ce sont évidemment les 40 ans de la Halle. Ça commence vendredi 12 juin, ça ouvre les portes à 18h à la Pont-en-Royan avec la visite de l'expo Festivement Vôtre par la curatrice Julia Turati. Et puis à 18h30, c'est le lancement des festivités et il y aura notamment à 21h le ciné-drag show par les enfants de Diane. C'est Titanic, vous pouvez plonger dans cette performance burlesque haute en couleur pour vivre ce film mythique de manière totale. C'est conseillé à partir de 12 ans, ça dure 2 heures et ce sera dans la petite salle de la Halle. Donc attention, les places sont limitées, il vous est conseillé d'arriver tôt. Pour la suite des festivités, ce sera notamment le 13 juin et c'est Julia Turati qui avait été interviewée par Anouchka qui nous présente le début de la journée de ce samedi 13 juin.
Donc on va commencer les 13 juin au matin. Au matin, on démarre avec la compagnie cyclique qui nous propose un marathon littéraire. Donc il y a un livre qui a été choisi qui est Sauvage de Julia Kerminon. Un livre qui va être lu à tour de rôle par les comédiens de la compagnie, mais surtout les curieux, les curieuses des passages. Donc c'est une performance littéraire et d'interprétation collective et qui va durer jusqu'à 18h sans interruption et qui va être aussi rediffusée sur des postes radio à la Halle bien sûr, mais aussi dans le village. Donc c'est vraiment un leitmotiv et un bon son presque, j'ai envie de dire, des fonds qui va ponctuer toute la journée du samedi. Il y aura aussi des moments dégustatifs qui sont inspirés directement du livre avec des ateliers cuisine et puis des moments plus de dégustation aussi tout au long de la journée. Et puis, Radio Royan, on vous accueille et on animera un plateau, enfin, vous animez un plateau radio à 10h15 sur la place de la Halle. Pour retracer avec nous et avec, pareil, les personnes qui ont envie de partager un souvenir ou une anecdote de ces 40 dernières années. Donc l'idée, c'est d'avoir un moment plus historique, rétrospectif, mais encore une fois, au plus près aussi de ce qui est le vécu des gens aussi, pas justement en termes de la programmation qui a été faite cette année, pardon, toute cette année, donc à 10h15.
C'était Julia Turati qui nous présentait ce début de journée du 13 juin, donc avec notamment ce plateau radio animé par Patrice sur le parvis de la Halle. Et puis tout le reste de la journée, un programme un peu dense à résumer comme ça au micro, mais il y a beaucoup de choses différentes, notamment pour les enfants, pour les 3 à 10 ans, mais aussi pour les adultes. Et le soir, notamment, c'est une soirée concocté par le collectif Calcaire qui lance depuis quelques temps maintenant des soirées dansantes pour nous enjailler dans le Royan. C'est donc sur la place de la Halle au rythme des sonorités électroniques avec pas mal de groupes. Toute la programmation de ces 40 ans de la Halle en grande pompe, c'est sur le site internet notamment de la Halle, mais aussi sur l'office de tourisme. On continue avec une autre festivité ce samedi 13 juin, ce sont les 20 ans d'Active Royan, cette association d'éducation populaire destinée à la jeunesse, mais aussi aux activités adultes, fait son temps fort d'assemblée générale de 17h à 18h30 ce samedi 13 juin et fête ses 20 ans à partir de 18h30 avec un temps festif devant les locaux d'Active Royan. Venez partager un verre, un buffet et l'occasion de raconter des souvenirs. Sachez également que Radio Royan-Vercors a plongé dans 20 ans d'archives de cette association et vous a concocté une rétrospective qui seront disponibles et sur place et sur notre site internet radioroyan.fr. Pour continuer, c'est aussi ce week-end, c'est à l'église de Saint-Nazaire qui est un festival de chorale. Ça commence le vendredi 12 juin à 20h par le chœur d'ailleurs Chante Caille. Le samedi 13 juin, c'est à 20h et c'est la Solorma. Et le dimanche 14 juin, c'est à 16h, c'est le chœur Antonin. Tout ça en participation libre à l'église de Saint-Nazaire en Royan. Et pour ce samedi 13 juin, également à Bateautopie, c'est toujours la compagnie Hors Propos qui propose de 10h à 12h30 un atelier d'improvisation clownesque. Suite donc à cette semaine de résidence, la compagnie Hors Propos propose donc cet atelier où il sera question de conneries, d'émotions, d'engagement physique et de relations au public. Si ça vous tente d'y participer, il faudrait au moins 5 participants, participantes pour que ça se tienne. Et le prix est entre 8 et 30 euros selon vos possibilités. Il faut contacter la compagnie Hors Propos à CIE, donc CIE, horspropos@gmail.com ou au 06 74 05 19 10 pour y participer. Et puis ce samedi 13 juin, il y a également du côté du Vercors une animation autour de l'événement À tout bout de champ.
À tout bout de champ, cette année, l'idée centrale, c'est de montrer comment on produit, ce qu'on fait. Déjà, ça c'est la base, faire une visite, faire découvrir l'activité. Et après, sont proposées plusieurs aussi activités, animations au cours de ces demi-journées ou une journée entière. Donc moi ici, ça sera une demi-journée. Donc malheureusement ici, il n'y a pas quelque chose qui est très populaire qui est la traite. Il n'y aura pas de traite de plans d'encolis. Mais du coup, il y aura une discussion justement sur les choix qui sont faits, notamment autour de la semence, sur ce qu'on a déjà énoncé sur les plantes sauvages, les collectes de semences en sauvage. C'est encore à confirmer, mais j'ai un collègue paysagiste à Presles, Julien Gailledra. S'il était disponible, il peut venir nous parler de son activité, parce que c'est quelqu'un qui a une éthique assez particulière et qui est du coup très ouvert quand on lui propose des espèces plus botaniques ou sauvages. Et je le remercie pour ça d'ailleurs. Donc j'aimerais qu'il nous parle de ça. Comment on fait pour aménager un jardin assez cohérent avec l'environnement et éventuellement, si possible, en insérant certaines sauvages ou botaniques? Voilà. Et puis après, il y aura une animation réalisée par Christelle Luçon, du coup autour de la reconnaissance de plantes comestibles sauvages sur le terrain autour de la serre. Donc en cueillir certaines, discuter autour donc de celles qu'on peut manger, etc. Bon, je voudrais pas trop dire de bêtises, c'est elle qui va être en charge de cette animation là. Et du coup, ça fait un bon lien avec la production de sauvages, mais aussi de choses alimentaires pour les jardins de chacun. Et du coup, avec une dégustation, c'était aussi la manière de faire déguster des choses aux personnes, même si ici il n'y a pas de production, notamment de fromage. Voilà, ça sera peut-être moins sexy que du fromage, mais je pense que ça sera très intéressant, très très chouette de découvrir tout ce qu'on peut manger à portée de main sans planter quoi que ce soit. Et ensuite, il y aura, en fonction du temps, probablement peut-être une discussion autour de la mare pédagogique qui a été mise en place à Saint-Martin, en partenariat avec le parc, avec l'école et la mairie de Saint-Martin. Parce que c'est vraiment des zones de biodiversité qui sont primordiales. C'est à côté du terrain, donc je trouve ça chouette d'en parler, de le faire découvrir. Et probablement aussi, il y aura un moment conté, c'est un conte autour des sujets abordés pour mettre un moment un peu de poésie et qui peut parler aussi à petits et grands. Voilà, parce que on va beaucoup peut-être échanger. C'est vrai que la première partie vise beaucoup un public de jardiniers, jardinières qui ont envie de mieux comprendre les choix des semences, les plants, etc. C'est moins jeune public, mais à côté, il y aura quand même des animations de rempotage, de petits godets, de petites plantes, le conte, l'animation de Christelle Luçon qui se veut tout public aussi, voilà, pour que tout le monde puisse trouver son compte.
À spécifier que ce sont des événements qui sont gratuits, et ça, c'est très chouette aussi de le souligner. Et que vous pouvez retrouver donc tout le programme détaillé sur le site du Parc Naturel Régional du Vercors et sur le site des offices de tourisme. Est-ce que tu peux nous rappeler quel jour ce sera pour toi?
C'est le samedi 13 juin à partir de 14h, si je ne dis pas de bêtises. Voilà.
C'était Adeline Anglaret sur son exploitation installée à 900 mètres d'altitude à Saint-Martin-en-Vercors pour les plans d'Adeline et cette sortie à tout bout de champ ce 13 juin. Dernier rendez-vous pour cet agenda, c'est les troisièmes rencontres en grange de Chabot. C'est à Saint-Agnan-en-Vercors, des conférences et débats, une table ronde publique, une soirée concert suivie d'un bal. Ça se passe à la grange des Deux Sapins, au hameau des Chabot. C'est gratuit et c'est ce samedi 13 juin de 9h à 23h, toute la journée festive. Et pour clôturer cet agenda, une information qui nous vient de la Cordo et du collectif Les Canutes. Comme vous le savez, Radio Royan-Vercors a été partenaire de ce dispositif de parcours d'accompagnement pour musiciennes et personnes en minorité de genre qui s'appelle les Amazones. Eh bien, une nouvelle session s'ouvre pour l'automne 2026. Et si vous voulez bénéficier de cet accompagnement, vous pouvez postuler jusqu'au 30 juin. Donc c'est toute femme ou personne issue d'une minorité de genre âgée de 18 ans ou plus, résidente dans le département de la Drôme ou en nord de l'Ardèche et développant un projet musical amateur ou professionnel, toute esthétique confondue, rock, pop, hip-hop, électronique, chansons, musique du monde, jazz. Tout ça donc c'est auprès de la Cordo qu'il faut postuler. Donc n'hésitez pas à les contacter pour avoir plus d'informations. Voilà pour cet agenda de cette fin de semaine jusqu'au 14 juin.